baroque et classique, dans la France du XVIIe siècle, Olivier Lestis et Philippe Frétinier.
Bonjour, vous êtes sur Radio Grand Ciel pour l'émission Baroque ou classique, l'art français au XVIIe, en compagnie de Philippe Frétinier qui va continuer à nous expliquer. Alors là, Philippe, vous étiez sur, la rubrique de la peinture depuis deux émissions et on va continuer. Vous terminiez la précédente sur le tout début du XVIIe, c'est-à-dire la période dite maniériste, qui était une exacerbation du réel, comme je vous cite là. Hein. Et puis, vous avez commencé à nous expliquer qu'à cette époque-là, les peintres français ne pouvaient pas vraiment se former en France, donc sont vite allés faire des voyages en Italie pour apprendre leur métier. Ceci avant pratiquement le milieu du XVIIe, c'est-à-dire 1648, la création de l'Académie royale de peinture, où là, effectivement, l'enseignement de la peinture a commencé à s'organiser en France. Néanmoins, à cette époque-là, le rôle de la géographie reste encore majeur.
Oui, absolument. Il faut imaginer que la France est une sorte de carrefour, et même des fois de carrefour de carrefour. Du point de vue de la géographie, on voit bien sur une carte, la France est entre l'Italie et les Flandres. Ce qui fait d'ailleurs qu'on a insuffisamment marqué le fait que la peinture flamande est une source d'influence en France au XVIIe. Il y a évidemment l'Italie, ça, par contre, c'est couramment admis. On marque moins le fait que la peinture flamande a influencé la peinture française. Alors, à travers deux peintres essentiellement, Rubens, et puis l'autre moins connu d'un public large, Franck Purbus. Sont des peintres dont les œuvres se diffusent. Alors, on connaît l'épisode, je crois même l'avoir mentionné, parce que justement, il y a vraiment... c'est pas qu'il n'y ait pas d'atelier où on puisse se former, mais il n'y a pas de grands ateliers, il n'y a pas de... Il faut bien le dire, avant l'arrivée de Vouet en 1627 à Paris, enfin le retour de Vouet en 1627 à Paris, de la fin du XVIe jusqu'à ce retour de Vouet, il y a des peintres intéressants, mais il n'y a pas vraiment de peintres majeurs. Là, on tombe dans le jugement de l'appréciation, le jugement de goût, ça peut être critiqué, mais il n'y a pas de peintres de l'envergure de ceux qui vont arriver après. Et donc, pour la peinture d'histoire, qui est vraiment le genre noble entre tous, aussi bien utilisant des références, des sujets bibliques, des sujets d'histoire, la mythologie. C'est vrai qu'il n'y a pas d'atelier capable de faire de la peinture d'histoire, ce qui explique, je l'avais déjà dit, je crois, mais on précise les choses, que la galerie de Fontainebleau, celle faite par François Ier, enfin celle voulue par François Ier, sont des peintres italiens qui la font. Et quand Marie de Médicis veut faire décorer sa galerie, il faut absolument que je parle de l'importance des galeries. Quand Marie de Médicis fait venir Rubens pour décorer ses galeries, c'est parce qu'il n'y a pas de peintre capable de faire un grand programme de peinture d'histoire, et surtout pas au format qui est demandé à Rubens. On peut toujours en avoir une idée, puisque les peintures de Rubens ne sont plus au Palais du Luxembourg. Mais elles sont au Louvre et ce sont de très grands formats. Donc Rubens a la maîtrise technique, artistique pour les faire. Et puis aussi, il a l'atelier parce qu'évidemment, des grandes toiles comme ça, le peintre est surtout un chef d'orchestre. C'est-à-dire qu'il ébauche la composition, les personnages. Puis après, il a des exécutants, parce que quand on voit l'activité, ne serait-ce qu'en tant que peintre, il n'avait pas que cette activité-là, puisqu'il a aussi été diplomate, on voit bien qu'il n'aurait jamais eu le temps de peindre lui-même d'aussi grand format, en aussi grand nombre. Et donc, ça marque le milieu parisien, sans plus, puisque justement, personne en France à ce moment-là est vraiment capable de tenir un tel programme. Mais surtout, ce qui se passe aussi, c'est que Rubens est l'un des premiers à comprendre ça très bien. Pour faire connaître son œuvre, ce qui est intéressant, c'est de la faire circuler par des gravures, des reproductions. Ce sont les reproductions de l'époque. Hein. D'ailleurs, en France, au cours du XVIIe siècle, il va y avoir des grands graveurs, notamment Abraham Bosse, qui est connu parce qu'il a fait partie de l'Académie de peinture, et puis qu'il a eu des problèmes parce qu'il y a eu des querelles autour de la perspective, et Abraham Bosse, en lien avec Desargues, mathématicien, il a une conception très précise de la perspective qui va être en désaccord avec celle de l'Académie. Il introduit quelque chose de très important pour les reproductions en gravure, ce qu'on appelle le vernis dur, contrairement au vernis mou. Alors, pour expliquer aux gens la différence des mais c'est important parce que ça montre la circulation des œuvres.
Oui, la possibilité de...
Voilà, le vernis mou, c'est un vernis qu'on passe sur la plaque, qui est, comme son nom l'indique, mou, et on pose une feuille de papier assez fine sur le vernis et on dessine normalement. Et donc, on imprime le dessin. Le vernis étant mou, il prend très bien la forme du crayon. Et donc, ça, c'est plutôt pour une gravure créative. Le vernis dur, lui, au contraire, il faut vraiment... On travaille directement sur le vernis avec des stylets. Et donc, ça permet de faire des traits vraiment très précis qui permettent une reproduction que ce que nous, on ferait aujourd'hui avec la photographie pour les œuvres d'art. Donc, il y a une grande circulation des œuvres, notamment de Rubens, des œuvres du Nord, qui va avoir lieu à Paris. Et ça va avoir un impact considérable. Le deuxième impact, toujours en lien avec la géographie et la proximité des Flandres, c'est que il y a un marché parisien qui se développe. Je vais revenir sur le développement du marché parce qu'il a une très grande importance aussi dans le développement de la peinture et son évolution au cours du XVIIe. Donc, il y a des marchands flamands qui vendent à Paris. Et ce faisant, finalement, il y a des peintres flamands qui vont venir s'installer à Paris, notamment à Saint-Germain, qui est une sorte pour l'époque, pas seulement pour les peintres flamands, mais pour certains peintres français. Ça va être les prémices, d'ailleurs, de cette volonté d'émancipation qui va...
Qu'est-ce qui les attire à Saint-Germain?
Le marché. Le marché.
D'accord.
Et donc, les prémices de l'évolution du métier de peintre vers un métier libre, dégagé des corporations. En termes modernes, on pourrait dire que le quartier Saint-Germain à Paris, au XVIIe, est une sorte de zone franche. Hein. Mmh. Donc, les artistes sont relativement libres. Et alors, ce sont beaucoup des peintres, comme à l'image de la peinture flamande, mais ça va donner aussi, ça va féconder la peinture française dans un deuxième temps. C'est beaucoup des peintres de fleurs, des peintres de genre, des scènes de genre, des peintres de nature morte, qui sont des genres qui n'ont pas encore vraiment, en tout cas en France, acquis leur lettre de noblesse, mais qui vont les acquérir après.
Oui, parce que vous nous disiez qu'à cette époque-là, ces genres-là étaient considérés comme mineurs par rapport aux thématiques mythologiques, etc.
Voilà, il y a vraiment une hiérarchie des genres qui n'est pas valable qu'en France. Hein. C'est vraiment, encore une fois, en haut, tout en haut, la peinture donc, d'histoire. Hein. J'ai défini ce que c'était. Je rappelle donc cette hiérarchie. Ensuite, le portrait, qui va lui donner lieu à une peinture de chevalet, parce que la peinture d'histoire, elle, c'est une peinture de grand format qui trouve sa place dans un premier temps dans les galeries. Il y a donc une vision décorative de la peinture. Il faut que je parle de l'évolution des goûts de l'aristocratie pour expliquer ça aussi. Et puis ensuite, les scènes de genre, la nature morte et le paysage.
Et on voit bien d'ailleurs dans la hiérarchie des genres que effectivement, les galeries sont le fait de commanditaires qui vont demander effectivement de l'illustration historique aux peintres.
Oui, avec un programme.
Avec un programme, de même que les portraits sont généralement des commandes aussi, des commanditaires voilà.
Tout ça va se dessiner au fur et à mesure de l'évolution des goûts. Parce qu'on ne peut pas parler de l'évolution de la peinture en général, et notamment en France au XVIIe, sans évoquer la création d'une clientèle et l'évolution des goûts de cette clientèle. On a des relations de voyageurs italiens à la fin du XVIe en France qui disent que finalement, la noblesse française n'est pas intéressée par la peinture, parce que les décorations des demeures aristocratiques, ce sont essentiellement des boiseries, des lambris, alors des fois peints et avec des décorés avec des médaillons. Il y a une merveilleuse, il y a beaucoup ont disparu malheureusement tout début du 7e, mais il y a cette merveilleuse décoration du château de Cormatin où on a une très bonne idée de ce qu'est une décoration de l'époque, avec des couleurs très, très prononcées, très fortes, très vives, un très beau bleu. Bon, on sait que le château de Richelieu était décoré aussi comme ça. Ou alors donc des boiseries qui sont quand même peintes, pas toujours, mais souvent, ou des salons tendus de cuir. Alors ça a beaucoup disparu. Pour le grand public, il y a un des trois salons subsistants. C'est un salon qui se trouve au château de Cheverny, qui est tendu de cuir de Cordoue. Donc il n'y a pas de décoration peinte. Et ce qui va beaucoup faire évoluer le goût, c'est que d'abord, le roi, en l'occurrence Louis XIII, va vouloir des programmes décoratifs dans ses différents châteaux. Il y a notamment un programme décoratif qui est prévu dans les galeries qu'on ajoute au château neuf de Saint-Germain, puisqu'il y avait deux châteaux à Saint-Germain, et le château neuf, qui était attribué à Jacques Andruet du Cerceau, et le château vieux qui existe toujours, qui est d'ailleurs le château dans lequel Jacques II, le roi d'Angleterre exilé, a été accueilli par Louis XIV. Je m'empresse de dire aux auditeurs, il faut absolument aller visiter ce musée, pas tant pour le château qui était une espèce de grosse forteresse, mais surtout pour son contenu. C'est le musée national des antiquités et de la préhistoire. Il y a des collections absolument extraordinaires dans ce musée. En plus, on y est tranquille, on n'est pas bousculé par la foule. Et donc le château neuf, construit à la Renaissance par Jacques Andruet du Cerceau, au XVIIe, on lui ajoute des galeries, puisque justement il y a la mode des galeries, il faut absolument que je parle des galeries. Donc il y a des programmes décoratifs qui commencent à se mettre en place, et du coup l'aristocratie va embrayer pour suivre le goût du roi. Et à travers ce nouveau goût pour la peinture, petit à petit, il va y avoir un goût pour une sensibilité à la peinture qui va se créer, puisqu'au départ, c'est plutôt un goût intellectuel, disons. On va avoir des peintures à programme, donc c'est une satisfaction de l'esprit. Et puis petit à petit, on va évoluer vers une peinture, un goût plus sensuel de la peinture. Et donc la peinture va pouvoir, les peintres vont pouvoir trouver leurs clients dans une peinture de chevalet où ils s'expriment, puisque l'un des maîtres mots, ça va être le développement de la sensibilité dans la peinture de l'époque. Hein. Mais au départ, c'est beaucoup articulé autour d'une sorte de discours du logos. Et c'est pas étonnant, parce que c'est le 17e siècle est vraiment un grand siècle pour la rhétorique française. C'est le siècle qui voit la création de l'Académie, de l'Académie tout court. Hein, voilà, je cherchais parce que les autres, il y a Académie de peinture. Et donc, d'ailleurs, l'une des missions de Colbert assigné à l'Académie de peinture en 1648, c'est le fameux vers d'Horace, Hic pictora poesis. Hein. La peinture est poésie, et la poésie est peinture. Et donc, on demande un développement du discours.
Et on entre vraiment dans une conception de l'art qui est très actuelle encore aujourd'hui. Alors, on va faire une petite pause musicale. On reviendra sur la question des galeries et de l'évolution de la sensibilité juste après cette pause. Il s'agit d'un morceau de Scarlatti, mais là je vais vous donner la parole parce que vous avez une annonce à faire également à propos de Scarlatti et de ce que vous allez en faire.
Évidemment, il y a de multiples raisons de choisir Scarlatti. Pour paraphraser Schumann à propos de Bach, je pourrais presque dire que Scarlatti devrait être le pain quotidien de tout claveciniste, sauf qu'il y a des choses, pas que, mais il y a aussi des choses très difficiles à jouer qui ne sont pas à la portée de tout claveciniste. Enfin, c'est un monument majeur de l'histoire de la musique, Scarlatti. Et il y a un claveciniste qui s'appelait Scott Ross, qui est un des grands clavecinistes parmi les grands clavecinistes qu'on a eus, qui a véritablement accompli un Everest musical en enregistrant les 555 sonates de Scarlatti. Et Simon Martin a eu l'idée de mettre en place un programme où on écoutera toutes les sonates de Scarlatti, les 555 sonates, et il m'a demandé de faire une introduction pour chaque sonate. Voilà. Donc on aura un cycle Scarlatti.
Un cycle qui devrait durer à peu près 2 ans.
Voilà.
Voilà, bon, on va écouter tout de suite Scarlatti.
Donc on va écouter la sonate numéro 141.
Plein de très beaux morceaux, plein d'énergie et de dextérité. Vous nous parliez de l'Académie de peinture, de son rôle à partir donc de la milieu de la deuxième moitié du XVIIe siècle.
Là, c'est ce que je vais développer, mais avant, je vais finir puisque j'ai parlé de la géographie sur la question de la géographie parce que vous voyez, il y a beaucoup d'entrées qui permettent de vraiment rendre compte de ce qui se passe dans la peinture, des influences, des directions qui sont prises. Et comme vous voyez, je ne parle plus du tout de baroque ou de classique, parce que justement, ces notions-là ne rendent pas compte de tout ce que je suis en train d'essayer d'expliquer. Hein, ça montre bien qu'il faut regarder tout ça autrement. Et donc, la question de la géographie, j'ai donc parlé de l'influence flamande, parce que la France n'est pas loin. Il y a donc la circulation des œuvres par les gravures, notamment celle de Rubens. Il y a la venue d'un peintre flamand d'origine à Paris, qui est Philippe de Champaigne, qui va être associé aux jansénistes et à Richelieu. Richelieu préfère une peinture plus austère que la peinture plus déliée, justement, des derniers maniéristes. Il y a évidemment l'influence de l'Italie. Et puis, il y a la question de la Lorraine. Alors, quand tout à l'heure, je parlais de Carrefour, ben justement, la Lorraine va, les peintres lorrains vont avoir une influence à Paris, d'autant plus qu'en 1623, la Lorraine de Charles III est annexée par Richelieu. Donc, à partir de 1623, la Lorraine est française. Avant, elle ne l'est pas. Mais il y a une cour très brillante. Et la Lorraine elle-même au carrefour des Flandres, de l'Italie.
Absolument. Au milieu des routes commerciales majeures de l'époque.
Donc, il se passe énormément de choses chez les peintres lorrains parce que c'est toujours la conjonction de beaucoup de choses, l'histoire de l'art. C'est-à-dire que c'est l'évolution de la sensibilité et des goûts d'une époque, l'émergence d'une clientèle, l'influence, la combinaison d'influences extérieures, et tout ceci repris, transformé par des personnalités qui font école ou pas, mais l'influence italienne, elle va être transmise de façon très différente par chacun des peintres, suivant son affinité avec tel courant. Par exemple, Rubens va évidemment être très sensible, et on comprend quand on regarde son œuvre à la peinture vénitienne. Un Français qui n'est pas très connu, mais qui s'appelle Jean Leclerc, qui va avoir un rôle important parce que lui aussi, il fait le voyage d'Italie et il est très sensible à la peinture vénitienne, donc il rapporte l'influence vénitienne à Paris. Donc c'est tout ça en même temps. Et alors il se trouve qu'en Lorraine, il y a vraiment une pléiade de talents qui évidemment, ce qui leur permet d'éclore, ce sont les conditions politiques, historiques, financière, parce que la Lorraine a été épargnée par les guerres de religion, donc il y a une certaine opulence. Mais il faut aussi qu'il y ait les figures capables de profiter de ce climat. Alors évidemment, parmi lesquelles, il y a Claude Lorrain qui va faire sa carrière à Rome, il y a Georges de la Tour qui va être nommé par la suite peintre ordinaire du roi de France, hein. Mais qui a une place très singulière, hein, parce que son œuvre elle-même est singulière par rapport à l'époque. Elle est d'ailleurs d'une, j'aime pas le mot, mais je vais l'employer pour faire court, d'une modernité incroyable, parce que il y a une composition basée sur la géométrie. Il y a des géométries formidables dans l'œuvre de la Tour, comme celle qu'on va trouver d'ailleurs dans l'œuvre de Chardin au XVIIIe. Il y a donc des peintres un peu moins connus, mais qui sont très importants. Alors eux qui sont les tenants du maniérisme, mais qui sont allés à Rome, comme Deruet ou Bellange. Et tout ça va avoir une influence sur la peinture parisienne, qui est quand même plus ou moins, enfin, plus, je ne vais pas dire médiocre, mais plutôt proche de la médiocrité que de la grandeur à ce moment-là.
Il n'y a pas les grands maîtres.
Voilà. Donc ça, c'est vraiment pour la géographie. Maintenant, évidemment, comme on est au siècle de la rhétorique, je citais le vers d'Horace, qui a vraiment été au cœur du projet de l'Académie de peinture, c'est vraiment le développement d'un discours. Et d'ailleurs, dans les peintures d'histoire, c'est exactement ça, hein. D'autant plus qu'en Italie, on a vraiment, à la fin de la Renaissance, un certain Ripa qui publie une écologie pour servir, ça va circuler dans toute l'Europe, parce que l'Europe est beaucoup moins européenne aujourd'hui qu'elle ne l'a été du Moyen-Âge jusqu'au XVIIIe. Hein.
Enfin, en tout cas, dans le domaine de l'art, c'est extrêmement clair que l'Europe est ouverte.
Voilà, donc aujourd'hui, on dit l'Europe, l'Europe, mais on est très loin du compte par rapport justement à ce qui se passait à ces époques-là. Et donc, il publie pour aider les peintres un recueil de figures allégoriques, mythologiques, très codifiées, avec les attributs qui les caractérisent. Et donc, ce recueil va être gravé, imprimé, et il va énormément circuler, et il va être à l'origine de tous les grands programmes décoratifs, y compris d'ailleurs la Galerie des Glaces. Alors, évidemment, plus on va avancer dans le siècle, plus les peintres vont garder ces références, mais vont les utiliser de plus en plus librement. La liberté va grandir au fur et à mesure du XVIIe. Et donc, ça participe de cette construction d'un discours de la peinture. Hein. Donc, ça, c'est très important. Et encore une fois, c'est comme par hasard le moment où la langue elle-même se formalise et a tendance à vouloir s'épurer. Et d'ailleurs, dans la peinture, on va retrouver la même chose. C'est-à-dire qu'on va avoir un abandon de la peinture maniériste pour s'épurer à l'image même de ce qui se passe dans le discours.
Donc, on voit bien comment vous notez les influences, enfin les facteurs principaux d'évolution, qui sont le facteur marchand, commerçant, qui permet aussi la circulation, avec des outils comme les gravures qui permettent de faire circuler les grandes œuvres, enfin en tout cas celles des grands maîtres comme Rubens. Vous signalez là un autre facteur important, qui est le facteur institutionnel, puisque les académies, c'est l'institution. C'est quelque chose qui va permettre l'instauration d'un discours partagé et diffusé, lui aussi.
Donc voilà, ça c'est très important. Alors l'autre facteur, notamment dans l'évolution, important dans l'évolution du goût de l'aristocratie, c'est que on importe en France une idée italienne en architecture qui est la galerie, qu'on va franciser, parce qu'on a toujours en France cet objectif de franciser les influences qui s'exercent sur nous.
Oui, c'est une question politique dont vous avez déjà
parlé, aussi bien au point de vue politique qu'au point de vue architectural. Absolument. En parlant de Philibert Delorme et de l'ordre français. Bon. Et ça va vraiment être, la galerie, ça va être vraiment le lieu dans la demeure, dans l'hôtel particulier, le lieu d'apparat qui montre la puissance du maître des lieux à travers la munificence développée dans la galerie. Et donc, évidemment, c'est la peinture d'histoire, mais ça va évoluer parce que l'aristocratie qui n'est pas très, très ouverte sur la peinture, qui n'est pas encore vraiment un public d'amateurs, va s'y ouvrir, notamment parce que dans la littérature conditionne quand même beaucoup de choses. Il y a l'évolution du courant précieux de l'hôtel de Rambouillet, il y a Madame de Scudéry, et cette évolution va avoir un impact sur l'architecture, parce qu'on va vouloir que dans l'hôtel particulier, il y ait des salons plus intimistes, il y ait une redistribution de l'espace intérieur, plus élégant, plus commode. Et donc, évidemment, il y a une évolution de la décoration, c'est-à-dire qu'on quitte, pas définitivement, parce qu'on continue à faire des peintures à programme dans des galeries, mais aussi des peintures plus intimes avec... en liaison avec la littérature précieuse, cette envie d'avoir son portrait. Mais ce portrait n'est pas... La recherche de ce portrait, Madame Scudéry, par exemple, donc c'est un portrait allégorique. Et donc, le programme est fait pour diffuser, faire valoir une image fantasmée du propriétaire lui-même. Mais, ce qui est très important aussi, autant que l'iconologie de Ripa, c'est aussi, j'en ai parlé quand on a parlé de littérature, les emblèmes et l'idée de la parfaite devise de Tesoro. Et donc, on utilise des emblèmes dans la peinture. On suit vraiment le discours de la littérature.
Alors, on développera cet aspect-là lors de la prochaine émission. Pour conclure celle-ci, une pièce de Bach.
Oui, c'est l'invention numéro 6.